Bonjour, vous êtes sur Radio Libertaire, la radio sans lieu, sans maître et sans publicité, dans l'émission de l'Association des cinéastes documentaristes, ADOC. On a déjà traité le sujet. Aujourd'hui, dans notre émission que nous avons intitulée « Femme, tu ne seras pas libre », nous accueillons deux réalisatrices, Emerance Dubas pour son film « Mauvaise fille ». Bonjour Emerance.
Bonjour Anne.
Et Catalina Villard pour son film « Anna Rosa ». Bonjour Catalina.
Bonjour Anne.
Toutes deux traitent dans ces œuvres fortes et émouvantes de l'enfermement de filles et de femmes au siècle dernier, en France ou en Colombie. Des femmes, nos mères ou nos grands-mères, dont le comportement était considéré comme anormal ou asocial, et que les institutions tentaient de faire rentrer dans le rang par la mise à l'écart, la violence, voire des mutilations comme la lobotomie. Nous allons en discuter ensemble pendant une heure et demie avec à cette table Caroline Kim Morange. Bonjour Caroline.
Bonjour Anne.
Paula Vélez Bravo. Bonjour Paula.
Bonjour.
Et moi-même Anne Galland, toute réalisatrice et membre de l'association ADOC, et à la technique, une autre membre d'ADOC, Niki Velissaropoulou. Nous allons donc commencer par vous présenter les deux films et je laisse la parole à Caroline qui va. À Paula, pardon, je me trompe.
Oui, ça va.
À Paula qui va présenter Catalina Villard et son film Anna Rosa.
Bon, ton film Anna Rosa, il dure 93 minutes. Et toi, Catalina, tu es née à Bogota. Tu es venue en France quand tu avais 20 ans. Et pour faire des études à l'école de sciences sociales, n'est-ce pas? Bon, après tu t'es formée au cinéma de Satélie Baron et à la FEMIS en réalisation. Depuis l'année 2000, tu enseignes et tu encadres des stages de réalisation et d'écriture à Paris, mais aussi en Amérique latine. En Colombie ou en plein d'autres
beaucoup
pays?
En Amérique latine. En Colombie.
Oui, d'accord. Bon, des films, parmi les films que tu as réalisés, des documentaires, Les Cahiers de Medellín en 98, et Toto la Momposina en 99, Patricio Guzmán, Une histoire chilienne en 2001, Bienvenue en Colombie 2002. Je me rappelle qu'il y avait dans ce film, il y avait tu es allé au village où il y a eu cette massacre à Borja, non? Mm-hmm. Oui. Et Invente-moi un pays 2005, La Nueva Medellín 2016, Camino 2018. Maintenant, Anna Rosa, qui est ton dernier film que nous avons découvert au cinéma du réel en mars dernier, et qui a emporté quelques prix. Ça a été très, très bien après un processus assez long. Parce que tu as commencé le film à quel moment, quelle année?
C'est difficile de donner une année exacte pour le début d'un film,
oui.
Parce qu'on le commence quand on a une intuition, donc entre l'intuition et vraiment le commencer. Disons que je l'ai commencé un peu ce que j'ai dit dans mon film, à la mort de mes parents.
Oui.
Ça, c'était l'intuition, puisque j'ai trouvé la photo de ma grand-mère.
Oui.
Et donc, c'est 2015, mais vraiment commencer à l'écrire et à les penser, voilà, à commencer à voir, à les mettre sur papier et à vraiment aller chercher un producteur, faire des vrais repérages, etc. Bon, c'était plutôt 2018, je dirais.
D'accord.
2018, oui, c'est ça.
Et dans ton parcours, il y a que tu es allé à la fac de médecine pour devenir psychiatre. Donc il y a un croisement là entre le sujet du film et quelque chose qui vient de ton histoire, de ta vie, des intérêts de ta famille, aussi qu'on verra dans les films après. Parce que, bon, le résumé du film d'Anna Rosa est... Et celui-ci, selon ce que, qu'il est dans le site, un peu. Pourquoi ma grand-mère a-t-elle subi une lobotomie ? En tirant les fils de ce drame, j'explore les liens de la psychiatrie avec la société de son temps et la place très particulière des femmes dans cette histoire. C'est un film en première personne. N'est-ce pas ? Oui. Et bon, nous allons écouter un premier extrait, c'est le début du film. Et une petite description de ces images, parce qu'on ne va pas pouvoir les voir dans la radio. C'est, au départ, on voit des mains qui jouent le piano, un piano. On voit le galop d'un cheval entre des feuilles, des feuillages, des arbres. Derrière, une femme enfile des gants pour ouvrir un cahier dans un espace où il y a des archives, avec une photo d'identité. Il y a une peinture ou un dessin de, en aquarelle de, d'un visage. Et après, il y a des images d'archives en, de films. Donc, il y a comme une suite de plans qui, quelque part, sont un peu une structure. Enfin, on voit beaucoup de les structures du film après, avec ses débuts du film. Bon, et puis après, on va voir à Catalina dans un appartement vide, devant une grande vitre, où on voit un panorama d'une partie de la ville de Bogota. Et ta voix off en espagnol, tu ouvres un tiroir et tu sors une photo d'identité de ta grand-mère, Ana Rosa, que tu n'avais jamais vue avant son visage. Et après, tu sors de l'appartement. Donc, on va se retrouver dans un hôpital, musée, dans lequel il y a des outils chirurgicaux et où sont exposés derrière des vitrines tous ces outils, tous ces instruments.
Oui, mais ça, c'est plus ça, dans l'extrait déjà. Dans là, l'extrait. Là, c'est la suite du film, mais oui. C'est plus dans l'extrait. L'extrait
en fait,
s'arrête.
La fin de l'extrait commence sur la visite du musée. Si, les derniers mots, oui. Oui. Mais c'est quand même un extrait qu'on a pris par la suite, donc on y reviendra. Donc là, on va écouter cet extrait. Donc, on a ta voix off, Catalina, en espagnol. Et tout de suite après, on vous propose que Catalina elle-même nous en fasse la traduction en français.
La muerte de mis padres cortó definitivamente el cordón umbilical con el país del que me fui hace 38 años. Ese día, como lo dice un tango argentino, ellos entraron en mi pasado. Hoy volví para desocupar el apartamento con mis hermanos. Sacamos vajilla, ropa, objetos, libros, discos, muchos discos. Y en el fondo del último cajón encontré la tarjeta de identidad de mi abuela paterna, Ana Rosa Gaviria. La verdad, nunca pensé en ella, o muy rara vez, porque uno no piensa en lo que no existe.
Donc on vient d'entendre le premier extrait du film de Catalina Villar, et comme on vous l'a promis avant de le faire écouter, Catalina elle-même dans le studio va nous traduire ce qu'elle nous a dit en espagnol.
Bon. La mort de mes parents a coupé les cordons ombilicaux avec les pays que j'ai quittés il y a 38 ans. Ce jour-là, comme le dit un tango argentin, ils sont rentrés dans mon passé. Aujourd'hui, je suis venue vider l'appartement avec mes frères. On a sorti vaisselle, vêtements, objets, livres, disques, beaucoup de disques. Au fond du dernier tiroir, j'ai trouvé la carte d'identité de ma grand-mère paternelle, Ana Rosa Gaviria. À vrai dire, je n'ai jamais pensé à elle, car on ne pense pas à ce qui n'existe pas. C'est la première fois que je vois son visage. Une image suffit pour qu'Ana Rosa commence à exister.
Cette phrase-là est extraordinaire. Une image suffit pour qu'Ana Rosa commence à exister.
Oui, et savoir que c'est ta grand-mère, enfin que il y a c'est important. Les grand-mères, en général, on imagine dans les personnes, et tout d'un coup, elle était disparue dans la même, enfin. Dans la vie.
Mais en fait, t'as pas lu tout à fait le texte jusqu'au bout, parce que
ça a été coupé avant.
Ah, oui, non, mais dans l'extrait, on l'a coupé avant parce qu'on se disait que les gens allaient forcément savoir jusqu'où t'allais. Ouais, continue, parce que c'est vraiment important, parce que tu nous donnes la clé d'entrée dans ton film à ce moment-là.
Tout ce que je sais, c'est qu'on lui a fait une lobotomie. Cela semblait aussi banal qu'une nouvelle coupe des cheveux ou l'extraction d'une dent de sagesse. On lui a fait une lobotomie. C'est une façon de raconter l'histoire. L'autre, c'est dire que c'est elle qui a subi une lobotomie.
Mmh. Voilà, c'est très, très, très important, je trouve, cette façon que tu as de... Et par l'image, comme l'a dit Paula, en nous donnant différentes ambiances et différents styles d'images que tu vas utiliser ensuite dans tout ton film, et ta voix qui nous guide... voilà, tu nous embarques dès le début, quelques minutes, et on est parti avec toi.
Donc c'est à partir de ce moment-là où tu as trouvé cette photo que tu es rentrée en France pour écrire, plus ou moins ou...
J'étais en France déjà.
Oui.
Je suis plutôt allée parce que ma mère était morte.
Oui.
Et du coup, effectivement, il fallait vider l'appartement de mes parents. Donc ça faisait très très longtemps que je vivais ici. Donc raison de plus pour être loin de cette histoire. Ça faisait déjà... Oui. Je vis en France depuis 40 ans. Mmh. Ma mère est morte en 2015. Moi, je suis arrivée en 84. Donc ça faisait... 30 ans que j'étais en France, et sinon plus. Et donc du coup, c'est vrai que j'avais pris aussi de la distance. C'est vrai que c'est une personne qui n'a pas vraiment existé. Elle m'a pas manqué non plus. Oui. Je me suis même pas posé la question, ce que j'ai dit là est vrai. Oui. Et pourtant je savais le mot lobotomie, je l'avais entendu. Pourtant, je savais qu'elle existait vaguement, qu'elle était pianiste. Tout ça, je le savais, mais en même temps, c'était quelqu'un de très lointain. Ça, personne n'en parlait, ni mon père, ni mes oncles, ni personne. Donc voilà.
Et toi, tu ne l'as pas connue?
Non, elle est morte 2 mois avant ma naissance. Mm-hmm. Elle est morte, voilà. Et donc du coup, c'est vrai que moi j'étais très étonnée parce que ce que j'ai dit dans le texte est vrai, c'est-à-dire qu'on a beaucoup beaucoup sorti des choses comme à chaque fois qu'on vide l'appartement de ses parents, avec chacun de mes frères les choses qui lui importaient plus. Mes frères ont tous hérité de la musique, donc c'était chaque disque, regarder chaque disque un par un, les partitions, enfin tout ça prenait beaucoup de temps. Quelques tables, enfin, chacun cherchait ses choses, et moi j'ai cherché les photos. Je voulais revoir les photos de mes parents, je voulais revoir curieusement les cartes, les traces bizarrement de mes parents en général. Donc ça m'aimait, voilà, j'étais très émue à faire tout ça. Et à la toute dernière, parce que ça m'a beaucoup bouleversée, pas seulement de trouver une toute petite carte d'identité déchirée au fond d'un tiroir, et c'est qu'elle était au fond d'un tiroir, enfin, c'est-à-dire c'était aussi émouvant de n'avoir que ça, et en même temps qui est ça. C'est-à-dire, ça veut dire que quand même mon père a gardé cette carte d'identité improbable de sa mère. Donc quand même, il a malgré lui, ou enfin je ne sais pas avec elle, il l'a gardé. La chose qui m'a... Donc là, c'était un début de qui était cette femme. Là, je n'étais pas dans le film. J'étais dans un cheminement, on va dire, très personnel, d'essayer de comprendre. Quand je dis qu'on commence un film là, c'est vrai et pas vrai, parce que tant que c'était mon histoire, ça ne pouvait pas être un film. Tant que c'était mon intérêt à moi, ma psychanalyse à moi, le pourquoi de mon père, le pourquoi de ma mère, le pourquoi de mes frères, tout ça, ça appartenait qu'à moi et je ne voyais pas trop l'intérêt de faire un film. Ça pouvait devenir un film que s'il y avait un lien avec les autres, que si ça s'ouvrait vers la psychiatrie colombienne, ça s'ouvrait vers un questionnement de la norme, un questionnement d'autres choses. Mais ça, je l'ai découvert plus tard. Mais sur le coup, ce n'était pas ça. Par contre, une des pistes qui était déjà dans cette carte d'identité, c'est que c'est une petite carte d'identité rose où la photo est collée. Et quand on la retourne de l'autre côté, tout est écrit en français. Français et espagnol, ça m'a bouleversée parce qu'en Colombie, tout est en anglais. Enfin, l'anglais, c'est la deuxième langue presque en Colombie. Et bien sûr, pour ceux qui connaissent l'histoire colombienne, ils le savent tout de suite. Et certaines générations le savent. Mais la France a été très, très, très influente. Donc, la première deuxième langue de Colombie n'était pas l'anglais, c'était le français. Donc, tout le début du siècle, c'était français et espagnol. Et là, ça m'a fait tilt parce que plus tard, ça allait résonner aussi avec la psychiatrie qui venait de France, puis dans les années 50, au moment où, effectivement, les cartes d'identité cessent d'être écrites en français. Et qu'en espagnol ou espagnol et anglais, la psychiatrie est aussi héritière de l'anglais. Donc cette carte contenait à la fois ça, contenait une date, contenait des indices comme ça qui m'aient donné envie de chercher pourquoi le français, pourquoi on l'a caché, pourquoi. Et pourquoi cette carte d'identité, où était très précisément marquée cette carte d'identité, ne permet que de sortir de l'argent. Enfin, c'est une carte pour aller à la poste réclamer son courrier et une carte pour des transactions bancaires. Si le mari mettait de l'argent sur son compte, on peut aller avec cette carte d'identité. Ce n'était pas du tout une carte d'identité qui donnait majorité d'autonomie à la personne. Donc, voilà, je dis ça parce que c'était effectivement... c'était pas... que ma grand-mère dans cette carte d'identité, c'était déjà beaucoup, beaucoup de questions.
La société.
Voilà, c'était quelque chose qui commençait à s'ouvrir et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, est-ce qu'un film possible, mais plus tard.
Voilà. Bah, effectivement, on va ensuite vraiment creuser cette question de comment construire un film, mais avant, on va passer au film d'Emerance Dubas, Mauvaise fille, et c'est Caroline qui va le présenter.
Alors, Emerance, quelques mots sur ton parcours, quelques mots rapides, si tu veux rajouter des choses, tu nous diras. Tu as fait une formation en histoire de l'art et tu as réalisé des installations audiovisuelles et des portraits audiovisuels et des portraits d'artistes, tu vas y arriver. Et parallèlement, tu t'es lancée en 2015 dans la réalisation du documentaire « Mauvaise fille ». C'est ton premier long métrage et tu y filmes la parole de 5 femmes. Et tu y interroges la place des femmes dans la société. On y rencontre Edith, Michelle, Evelyne, Fabienne et Edith. C'est bizarre, j'ai deux fois Edith.
Et
Marie-Christine. Alors qu'elles étaient fillettes ou adolescentes, elles ont été placées en maison de correction. Chacune, donc c'était en France, chacune raconte des bribes de souvenirs, dévoile une partie de son histoire dans ces établissements qui étaient gérés par des sœurs. Où elles ont été confrontées en fait à des violences physiques, psychologiques, affectives. Ces établissements qui sont restés actifs jusqu'à la fin des années 1970. On va écouter un premier extrait, c'est le tout début du film. On entend donc Edith, l'une des femmes que tu as interrogées, qui décrit le bâtiment où elle est entrée toute petite. Et à l'image, on voit l'intérieur de l'un de ces établissements qui est aujourd'hui désaffecté.
Vous rentrez déjà par la petite porte. Hein, vous ne rentrez pas par le portail. Vous rentrez par la petite porte si vous avez accès. Et là, vous avez les pénitentes. Sur le même côté, vous avez les préservés. Et dans l'angle là, ici, en bas, il y avait une école que les bonnes sœurs nous faisaient. Et il y en avait une qu'il fallait monter les escaliers qui était en face des dortoirs. Ces escaliers-là, quand ça n'allait pas, les monter à genoux, les bras en croix. Et puis des murs. Après, c'était que des murs.
Alors, Émérence, j'ai mal prononcé ton prénom tout le temps. Tout à l'heure, c'est bien Émérence. Comment t'es venue l'envie de faire un documentaire et plus précisément sur ce sujet-là? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu?
Alors le film est né d'une rencontre avec une historienne qui s'appelle Véronique Blanchard. À l'époque, Véronique Blanchard était doctorante et préparait un sujet de thèse sur les mauvaises filles. Moi, je connaissais les Magdalene Sisters, ce film de Peter Millan qui était sorti en France en 2003, qui est une fiction et qui raconte le sort de jeunes filles placées en maison de correction en Irlande parce qu'elles étaient jugées déviantes par la société. Et quand Véronique Blanchard m'a parlé de son sujet de thèse, j'ignorais complètement que des femmes de la génération de ma mère avaient connu le même sort que ce film, les Magdalene Sisters. Et je me suis dit, il y a un film à réaliser et je dois faire ce film. Et j'ai commencé l'écriture en janvier 2015. Donc nous avons, Catalina et moi, en fait, commencé à travailler voilà, sur nos films à peu près à la même période. Et c'est vrai que nos films sont vraiment résonnent. Mmh. L'un et l'autre.
Tout à fait. Et c'est pour ça que vous êtes là toutes les deux aujourd'hui, effectivement, pour faire dialoguer ces deux films. Et vous, sur eux. Alors, dans le dossier de presse qui accompagne le film, il y a écrit que ce film marque un tournant dans ton travail. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu en quoi?
Eh bien, en fait, quand j'ai commencé à travailler sur ce projet de film, personne ne voulait de ce film. On m'a quand même dit, est-ce que ces femmes racontent toute la vérité? Et c'était avant le mouvement MeToo. Et donc, j'ai rencontré vraiment une grande difficulté à réaliser ce film. J'ai mis plus de 7 ans à le faire. Et autour de moi, on me disait, laisse tomber.
Ouais.
Et en fait, c'est le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire que ce film est devenu une obsession, a pris une place grandissante dans ma vie. Et je me suis même dit, si je ne fais pas ce film, j'arrête. Pour moi, ce film était vital. Je devais le réaliser. Et pour moi, c'était fondamental d'aller au bout.
Est-ce que c'est parce que tu avais déjà rencontré les personnes, que tu leur avais parlé, que pour elles, c'était déjà quelque chose qui allait exister? Est-ce que c'est pour ça que tu t'es donné cette responsabilité? Ou est-ce que c'était vraiment quelque chose qui venait du fond de toi?
Alors, je pense qu'on est toujours animé par des choses souterraines. Et je revendiquais, pendant longtemps, j'ai revendiqué l'obscurité du désir, jusqu'au jour où j'ai compris pourquoi je faisais ce film à titre personnel. Et c'est exactement ce que tu as dit tout à l'heure. C'est au moment où j'ai compris pourquoi, véritablement, je faisais ce film, d'un point de vue personnel, que j'ai pu penser le film, le réaliser. Et étonnamment, c'est à ce moment-là où tout s'est dénoué. J'avais le sentiment d'avoir passé d'un cercle vicieux à un cercle vertueux. Et à ce moment-là, j'ai rencontré mon producteur, enfin mon second producteur, puisque mon premier producteur, c'était Paul Sadoun, qui est décédé en cours au début de l'écriture du film. Et j'ai rencontré mon second producteur, mon équipe, et on a commencé à pouvoir financer le film. Donc voilà, tout d'un coup, il y a quelque chose qui fait que vous êtes en capacité de penser le film à la fois d'un point de vue intellectuel, mais d'un point de vue artistique, d'un point de vue de la mise en scène.
Mm-hmm. Et est-ce que vous pouvez nous dire chacune dans quel cadre vous avez écrit le film, comment vous avez été accompagnée pour cette phase d'écriture et de réflexion?
Alors, dans mon cas, justement, suite au décès de Paul Sadoun, j'ai une amie productrice m'a proposé, m'a invité à me présenter à l'atelier documentaire de la FEMIS pour poursuivre le travail avec un accompagnement privilégié. Et ça a été une excellente idée. J'ai en effet mené ce travail pendant une année, et ça a été vraiment salutaire et très enrichissant avec Chantal Richard et Jacques Deschamps. Et tout de suite, et on était une douzaine dans cet atelier.
Et toi, donc, Catalina?
Non, moi, je l'ai écrit. C'est-à-dire, quand j'ai commencé à comprendre qu'il y avait film, on va dire, j'ai jeté les idées sur un papier assez vite. Je ne dis pas qu'il y avait un film assez vite, mais en tout cas, c'était quoi les idées? Qu'est-ce qui me travaillait le plus? Quel mouvement je voulais faire du film? Je savais qu'à un moment donné, je voulais passer de la phrase que j'ai dit effectivement en début du film, c'est-à-dire on lui a fait une lobotomie, c'est ce que j'ai entendu toute ma vie, à elle a subi une lobotomie. Pour moi, ça changeait radicalement les choses. Donc, une fois que j'ai compris ça, une fois que j'ai compris que la lobotomie, que l'histoire de la psychiatrie, que les femmes... qu'il y avait mon oncle dedans, on en parlera peut-être après, et qu'il y avait tragédie grecque. J'étais tous ces éléments de manière un peu désorganisée. J'ai présenté en Colombie à l'équivalent du CNC, qui s'appelle le Fonds Mixte. Et donc j'ai eu une aide à l'écriture là-bas qui m'a permis d'aller repérer un peu plus, d'avancer un peu plus. Je suis venue, j'ai eu Brouillon d'un rêve. Et voilà, ça s'est enclenché comme ça. Puis après, j'ai eu les
et
autres.
Et il y a eu le Covid et tout.
Oui. Ah, ça c'est après, oui.
Après. Oui, toutes les deux, vous avez été
traversées par les COVID.
Au moment du Covid.
Oui.
Absolument, oui. Et pour rebondir, Mauvaise Fille a aussi bénéficié de Brouillon d'un rêve. Et c'est vrai que c'est des aides qui sont importantes pour. Parce que un encouragement, et puis financièrement c'est soutenant.
Oui, c'est une aide qui est vraiment destinée aux auteurs, donc c'est aux auteurs de films, donc c'est vraiment précieux, quoi. Effectivement.
Et toi, Catalina, c'est quand même un film après une vingtaine d'années de réalisation d'autres films, donc il y a aussi une continuité, il y a aussi un travail que tu laboures, on pourrait dire.
C'est une continuité, une rupture.
Ah, là, c'est intéressant. Oui.
Parce que jusque-là, je suis issue... j'ai effectivement un parcours un peu étrange qui vient de la médecine, puis de l'école des sciences sociales, atterri à Varan, puis à la FEMIS. Mais disons que j'ai fait la FEMIS, je crois qu'à l'époque, j'étais l'une des seules, malgré qu'il y a... Après coup, il y a eu beaucoup de mes camarades qui ont fait des documentaires. Mais j'ai traversé la FEMIS en sachant que je voulais faire des documentaires, ce qui était rarissime à l'époque. Mais j'avais gardé, dans ma petite tête, Varan et l'enseignement Varan, et donc le cinéma direct, qui était pour moi à l'époque la manière de faire, quoi, et de rencontrer le monde, et de parler des autres, et des vraies rencontres. Et bon, je ne vais pas faire tout le... Qu'est-ce que c'est pour moi le cinéma direct, mais c'était très important. Donc tous mes films avant étaient en cinéma direct, en cinéma des rencontres. Je parlais pas de moi. Il y a eu ce voyage que j'ai fait en Colombie sur les élections, mais je parle pas vraiment de moi. C'est j'utilise ma voix off plus pour donner quelques repères.
C'est le premier film où tu commences à rentrer où tu parles plus de ton point de vue, c'est une écriture.
Oui, mais je parle pas vraiment de moi. Je dis des choses sur le pays, sur ce que je voilà. Je,
mais c'est très depuis ton point de vue.
Oui,
part.
Mais bien enfin, sûr, c'est... comme tous les films, oui. De toute manière.
C'est plus comme on dirait presque comme première personne. J'ai l'impression.
C'est un peu la première personne parce que c'est moi qui effectivement se promène dans tout le pays pour. Mais c'est.
C'est pas sur toi,
voilà.
C'est sur le pays, c'est clair.
C'est ça, j'ai fait pas un personnage du film. Donc c'est vrai que juste avant Camino, c'était un film où je me posais quand même des questions. C'était aussi avec des enfants, c'est un film que j'ai fait avec Yves de Peretti, mon compagnon, et où on s'est posé la question de qu'est-ce qui se passe avec les enfants qui vont pas bien, qui se dévient de la norme, qui voilà, c'est en commun aussi avec avec les femmes. Aujourd'hui, on les médicalise. Enfin, c'est encore une autre histoire. Mais c'était effectivement. Mais par contre, et conceptuellement, était très lié. Enfin, et la réflexion de ce film a beaucoup aidé pour le suivant. J'ai beaucoup appris sur la psychiatrie. J'ai eu des profs de psychiatrie très calés pour faire ce film parce que le personnage principal était un psychiatre que j'aime beaucoup, Roger Ferrari, qui est formidable.
Pour le film Caminos, hein.
Pour le film Caminos. Et donc, effectivement, j'ai énormément lu de choses. J'ai commencé à préparer. Enfin, j'avais toujours lu beaucoup de choses sur la psychiatrie, mais là particulièrement. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Mais j'ai dit rupture parce que, par contre, faire un film qui n'était pas en cinéma direct, où moi, je devais le porter, où j'ai comme. C'était inévitable. J'allais voir mes oncles, j'allais voir mes proches, j'allais voir mon cousin. La moindre des choses, c'était de prendre le risque d'être dedans et de, voilà, d'être aussi comme eux, quoi, à la même place, évidemment, étant à une autre, mais à la même place, en tout cas, prendre le risque d'être dedans et de raconter ma grand-mère, qui est peut-être pas la même que celle de mes frères. Mm-hmm. Mais.
Et l'intime est. Politique
et
aussi.
Après mener vers le politique, bien oui. sûr. Mm-hmm. Et donc formellement, c'était j'étais très 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 effrayée à cette idée. J'avais rarement fait des entretiens, puisque dans les autres films, je filme des situations, voilà, ça me plaît beaucoup. C'est comme une fiction où les situations sont là, puis on décide sur in situ, c'est quoi le champ, c'est quoi le contre-champ, qu'est-ce qu'on filme là, est-ce qu'on fait un plan. Enfin, on construit une séquence de fiction dans la vie réelle, avec l'adrénaline que ça impose, parce que la situation est en train d'arriver et qu'on doit la penser comme un scénariste aurait le temps de la penser chez lui. Mais nous, on doit réagir. Ça me plaisait beaucoup. Alors, l'idée de me confronter à des entretiens, de me confronter à la voix off, de me confronter aux plusieurs couches narratives, au mélange des archives, etc. Disons que ce n'était pas facile.
Et toi, on a bien commencé.
Juste une petite question à Émérance avant de passer à la pause musicale, que je pense que vous voulez introduire. Toi, justement, Émérance, le fait de conduire des entretiens, toi, au contraire, il n'y a pas du tout ton point de vue personnel. On t'entend poser une ou deux questions, mais sinon, tu es assez plutôt en recul. Comment, voilà, tu as décidé un petit peu de ta place dans ce film ?
Eh bien, en fait, dans le montage, c'est vrai que ça me semblait important qu'on entende ma voix très vite. On m'entend très peu, mais je voulais qu'on entende ma voix très vite pour que le spectateur comprenne vraiment que les femmes, en s'adressant à moi, s'adressent au public, au spectateur. Et la question de l'adresse était pour moi centrale. Elle s'adresse à moi, en fait. Et ensuite, il y a plusieurs registres de mise en scène dans le film. Il y a en effet des entretiens, je dirais même des conversations entre elle et moi, et puis ensuite des mises en situation. Alors, soit des scènes que j'ai proposées à chacune des femmes en fonction de leur histoire, ou alors des choses qu'elles m'ont suggérées en fonction de leur cheminement, en fait, par rapport à leur adolescence ou leur enfance.
Mmh. Et toi, t'as pas voulu, voilà, intervenir plus intimement. C'est pas du tout une obligation, mais enfin voilà, t'as pas voulu être plus présente en tant que toi, si on peut dire, dans ce film.
Disons que moi, ce qui était très important et ce qui est revenu très souvent dans la fabrication du film, c'est de trouver un espace pour le spectateur. Mm-hmm. Donc c'était plutôt ça qui m'a questionné durant toute la fabrication du film, créer un espace. Ça revenait souvent dans les commissions de financement du film, comment les spectateurs vont pouvoir entendre toute cette violence. Donc c'était important qu'on sente ma présence, mais je voulais vraiment créer un espace pour le spectateur et surtout pour les femmes, c'est-à-dire que ce soit un écrin, en fait, pour une prise de parole absolument inédite. Et pour certaines, voilà. Et puis c'est Les femmes présentes dans le film ont toujours assumé leur histoire, mais elles parlent aussi pour toutes celles qui ne peuvent pas parler. Et donc, voilà, c'est quelque chose que de participer à un projet cinématographique. C'est rendre une parole publique.
Mmh. Bon, c'est effectivement la question qu'on va aborder en deuxième partie d'émission, là, après une petite pause musicale pour déjà encaisser ce qu'on vient d'entendre. Mais c'est parfait, la discussion a bien commencé et on a envie d'en savoir plus sur les deux façons dont vous avez mené vos réalisations.
Thank you.
C'était Lido Pimienta, une Colombienne au Canada, en exil, qui vient de la Guajira. Elle est originaire d'une communauté indigène qui s'appelle les Wayuu. Et elle a écrit cette chanson pour parler depuis l'exil de son pays, Colombie.
Et la chanson s'appelle « Eso que tú haces ».
Voilà, c'est donc l'extrait musical qu'on vient, enfin la chanson qu'on vient d'entendre sur Radio Libertaire dans l'émission d'ADOC, l'Association des cinéastes documentaristes. On a déjà traité le sujet, dans laquelle depuis 15h30, nous discutons avec Emerance Dubas pour son film « Mauvaise fille » et Catalina Villar pour « Anna Rosa ». Et nous, après vous les avoir présentés, nous allons poursuivre la discussion qui avait bien commencé sur la manière de construire ces films, chacune de votre côté. C'est des films dont les formes sont très différentes. En même temps, on a quand même commencé un tout petit peu aborder cette question du cinéma direct. Aucun de vos deux films n'est du cinéma direct. Là, Catalina, tu me faisais boire du petit lait en racontant comment tu sentais le cinéma direct, une mise en scène du réel, penser comme presque une fiction. Enfin, voilà, mettre du cinéma dans le réel et le penser de façon cinématographique au moment du tournage, ça me parle d'une manière absolue. Mais là, il s'avère que voilà, c'est d'autres formes que vous avez choisies. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que chaque fois, c'est bien pour ça qu'on dit on a déjà traité le sujet, on l'a jamais traité. Chacune, chacun le traite à sa façon, avec son style, avec d'où ça vient, le questionnement, à qui on s'adresse. Voilà, et donc on va poursuivre. Moi, j'avais quand même une petite question pour Émérance. Avant de, enfin, qui est relié à ce qu'on était en train de dire, ces cinq femmes là que finalement qui vont finalement construire le film avec toi, qui vont être les porteuses de la parole. Comment tu les rencontres? Tu fais un appel, tu l'annonces. C'est des femmes qui viennent te voir suite à. Elles sont au courant, elles ont entendu que tu cherchais ce genre de témoignage. Et je pense que c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, déjà, avant de démarrer.
Alors, le film dresse des portraits croisés de quatre femmes. Et en effet, il y a cinq femmes dans le film, puisqu'il y a une femme qui rejoint Evelyne à la fin du film. Et ces quatre femmes ne se connaissent pas. Voilà, elles n'ont pas le même âge, elles n'étaient pas placées au même endroit, elles n'ont pas non plus le même type de personnalité et de vie. Donc ces femmes ne se connaissent pas, elles se sont rencontrées pour la première fois lors de la première projection publique du film. En effet, ça a été un long chemin. Il faut comprendre que les femmes qui ont été placées en maison de correction sont le plus souvent dans un dilemme. Elles sont conscientes d'avoir été victimes d'un système disciplinaire et en même temps, elles ont intégré la honte. Donc, beaucoup de femmes se sont tues et n'ont pas raconté leur jeunesse à leurs proches, leurs maris, leurs enfants. Il se trouve que les femmes qui sont présentes dans le film, comme je disais tout à l'heure, ont toujours assumé leur histoire. Après, encore une fois, c'est autre chose que de participer à un projet de film et d'avoir du coup une parole publique. La première femme que j'ai rencontrée, c'est Michelle, la femme qui a été placée dans les années 50 et qui a une robe rose dans le film. Elle m'avait fait une demande en me disant qu'elle ne voulait pas être seule dans le film. Et après, ça a été assez long. J'avais été en contact avec une autre femme qui, à la veille du tournage, a annulé. Elle m'a dit voilà, je vais pas y arriver, c'est trop dur. Je sais que ce serait nécessaire de le faire, mais moi, je ne peux pas, ce que j'ai totalement compris. Et je lui ai dit que les portes du film seraient toujours ouvertes. Mais voilà, elle n'est jamais revenue vers moi. Et puis, ma rencontre avec les autres femmes se sont passées après le mouvement MeToo. Et je pense que ça... Elles ne m'en ont jamais parlé explicitement. Mais je crois que dans l'inconscient, je pense que ça a dû jouer. Tout d'un coup, elles se sont dit que... voilà, que l'espace public était en mesure peut-être de les entendre. Et puis pour certaines, elles sont au crépuscule de leur vie et elles se sont dit c'est maintenant ou jamais. Elles n'ont plus rien à perdre. Et voilà, c'était le moment en fait de raconter leur histoire pour elles, mais aussi pour toutes celles qui ont été broyées par un système disciplinaire. Et ce sont des femmes qui ont été totalement invisibilisées. Et ce que m'a appris le film, et là je vais au-delà de ta question, Anne, c'est quelque chose de très simple. C'est qu'il n'y a pas de parole sans écoute. Et ça, c'est fondamental. Dans un rapport, comme tu le disais, Catalina, avec tes proches, là, moi, c'est pas des membres de ma famille, mais on a eu tout un parcours, en fait, avant de tourner, dans un rapport de symétrie, en fait. Et c'est vrai que moi, je connaissais l'histoire de chacune des femmes. Il y a eu, comme vous le savez, le confinement. Donc, on a continué à maintenir des liens. Et tout d'un coup, au moment du tournage, tout s'est rejoué. Puissance 10, de part et d'autre de la caméra. Il y avait une tension entre nous, et parfois il y a des choses qui... Je connaissais leur histoire, mais parfois il y a des choses qui ont été dites, et je pense notamment au premier plan séquence du film après le titre. Jamais Evelyne ne m'avait parlé de son histoire lorsqu'elle avait 11 ans, de ce qui lui est arrivé lorsqu'elle avait 11 ans, de cette façon. Et ça, c'est la puissance du cinéma.
Et c'est extraordinaire, elle te le dit d'ailleurs, elle dit, c'est la première fois que je pleure. Jusque-là, j'avais pas d'émotion, je réussissais à tenir ça caché, enfin contraint. Et là, tout d'un coup, parce que tu es là avec ta caméra, parce que tu as créé ce rapport de confiance et que vous êtes dans quelque chose qui dépasse ce simple traumatisme, voilà, ça lui permet aussi de s'exprimer.
C'est assez intéressant, pardon, parce qu'en fait, en effet, j'ai noué un lien très fort avec chacune des femmes et on est en lien toutes les semaines, tout le temps, en fait, toujours. Et ça aussi, c'est important de le dire, c'est-à-dire qu'au moment du tournage, je suis pas arrivée seule. On était en équipe réduite, mais il y avait une chef opératrice, il y avait que des femmes, une chef opératrice et une ingénieure du son, et ça joue aussi. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a une autre écoute. Je veux dire, je suis pas toute seule. Et voilà. Et ça, c'est important de le dire.
Dans le film, dans ton film, il y a quelque chose, c'est la présence de ceux qui ne sont pas là, avec les archives.
Paola, tu es en train de parler à Catalina, là.
Oui.
Non, parce que tu ne l'as pas précisé. Donc, Catalina, dans ton film.
Catalina, oui.
Vas-y, continue, excuse-moi.
C'est clair, oui, parce que les gens ne voient pas ce que nous voyons ici. Oui, très bien. Et dans ton film, on voit qu'il y a une construction qui est comme en couche, où il y a de l'intime, jusqu'au qu'on s'ouvre à la recherche de l'histoire de la psychiatrie à niveau mondial, des choses dans ta famille et aussi des contextes même historiques en Colombie qui se mettent en couche les unes après les autres. C'est assez intéressant la manière comme tu as fait le montage pour qu'il aille toutes ces informations qui sont très larges. Et en parlant de la présence de ces femmes, et des femmes aussi, parce qu'il y a un moment où ça ne parle pas que de ta grand-mère, mais ça parle des femmes qui étaient dans un asile en Colombie. Et, un peu comme dans le film de Mauvaise Fille, il y a un moment où tu visites cet asile vide, et cet espace architectural ce sont des ruines, et il y a quelque part la présence des filles qui ne sont plus là, mais d'une manière un peu dans ces moments de grâce qui peuvent arriver dans les cinémas documentaires, mais c'est juste quelque chose qui peut être spectral, peut-être ça dépend de la manière comment on peut le ressentir comme spectateur, c'est vraiment très subjectif, mais il y a un moment des grâces du documentaire qui arrive avec un cheval Alors, tu mets en scène.
On peut peut-être l'écouter ce moment. On l'a prévu comme comme extrait.
D'accord.
Écoute et on en parle juste après.
Du coup, tu nous dis, tu nous diras Catalina ce qui se dit. En gros, on visite cet hôpital avec un
psychiatre, un médecin,
qui nous décrit les lieux et ses souvenirs.
C'est un hôpital désaffecté aussi, hein. Comme,
oui, un asile.
Voilà.
No, yo trabajé en un solo pabellón. Los seis meses que estuve aquí, trabajé en un pabellón que se llamaba el Sagrado Corazón de Jesús. Sí. Ese se llamaba así, ¿no?
Ese era de...
El Sagrado Corazón de Jesús. Eso era de mujeres, sí, crónicas, sí. Había muchas esquizofrénicas, crónicas, y ya. Aquí era la droguería. Aquí era donde se daban los medicamentos, ¿no? Y por aquí se salía, ¿sí? También a la calle ya, si ya dimos la vuelta.
Oui, donc pendant qu'il parle, le médecin, c'est un parcours dans l'espace de cet asile qui est en ruine. Et derrière lui, face à la caméra, il y a un cheval qui se promène derrière lui et on dirait qu'il ne s'est pas aperçu, au moins dans les montages qu'on voit comme spectateur. On dirait que lui, il est en train de faire tout ça et le cheval derrière lui, lui, il ne se rend même pas compte qu'il y a un cheval derrière. Mais bon, ça c'est...
En fait, ce qui me plaît d'être avec Emeran, c'est qu'effectivement, quand j'ai vu les premiers plans de ton film, en plus, il y a une espèce de coïncidence parce que, pardon, j'ai fait un pas de côté, je reviens.
Tu peux faire ça, oui.
Voilà. Et parce que je voulais travailler qu'avec des femmes et donc je voulais partir avec Isabelle Razavé, qui est la chef opératrice de son film. Bon, en Colombie, à ce moment-là, il y avait le Covid, il y avait les révoltes. Très grave. Voilà, c'est ça. Donc, c'était. Le climat était très, très tendu et c'était très compliqué. Quand je suis partie, je ne savais même pas si on pouvait tourner. Donc, c'était très risqué de faire venir Isabelle sans même savoir. Enfin, c'était déjà très cher, très compliqué. Et s'il fallait s'arrêter, bon, il fallait trouver quelqu'un sur place. Parce que j'avais pas encore vu ton film. Mais l'importance, j'aime beaucoup ce début, la manière dont elle a tourné ces lieux, et la manière dont on découvre les petits mouvements, la lumière qu'il y a. Enfin, c'est des lieux en soi très habités, mais c'est vraiment une question de cinéma. Comment faire sentir les spectateurs, parce que c'est évidemment, ils ne sont plus là et c'est des lieux qui sont vides, donc ils n'étaient pas comme ça quand les femmes vivaient. Et en même temps, il y a une espèce de. C'est une sensation. Ce n'est pas qu'un archive où on va montrer par la porte et machin, parce que la porte n'était pas exactement comme ça. Là, elle est envahie de plantes dans ton film, où évidemment, ça ne devait pas être le cas puisque les gens pouvaient rentrer, j'imagine. Donc, mais en même temps, ça produit. Comment saisir une sensation? Comment saisir. L'angoisse de ces femmes de rentrer, comment saisir l'enfermement, comment saisir, parce que les choses qui est dans celui-là ou dans mon film, dans ce lieu que j'aime beaucoup, effectivement, qui est Sibaté, qui est un hôpital désaffecté, c'est le nom d'un village où tout est construit, enfin le village est né parce qu'on a mis l'hôpital psychiatrique là-bas, parce qu'on a déménagé les fous là-bas, en France aussi, les fous étaient loin de la ville, enfin il faut surtout les mettre bien loin. Et donc du coup, pareil que dans son film, c'est ça qui m'a beaucoup intéressée aussi, c'est que les mots qui sont utilisés dans ton film, les informations, elles sont bien des informations, je veux dire, lexicales, qui donnent beaucoup d'informations sur les conditions des femmes, c'est-à-dire ne plus avoir d'intimité, être loin des autres, enfin, tous ces petites
tous
choses-là,
les ingrédients pour,
tous les ingrédients
pour qu'on devienne fou.
sont compris dans ces lieux, sont égrenés dans ces lieux, d'une manière ou d'une autre. Donc il fallait trouver une manière de les filmer. Donc évidemment, ces lieux m'ont énormément plu, parce que pour les cinéastes, c'est vraiment du pain béni, évidemment, parce que c'est très cinématographique de voir des ruines si parlantes. Et en même temps, quand je suis arrivée, tout était vide. Il y avait juste un cheval qui, en fait, était le gardien du lieu, parce que l'endroit est vide et il y a quand même un gardien
pour que, je ne sais pas, pour que les gens ne s'installent pas, ou pour que, je ne sais pas, en tout cas, il y a un gardien qui protège incroyablement ces lieux. Et donc, c'était les chevaux du gardien, qui venait lui en cheval, parce que lui, il vit à je sais pas, une demi-heure à cheval de ce lieu. Et j'ai trouvé ce cheval, mais j'adore les chevaux, j'ai trouvé ce cheval magnifique. Et les premiers jours, on a filmé, on a d'abord filmé les lieux, je ne sais pas, j'imagine que vous avez de toute manière fait les lieux, et puis elles sont chez elles. Mais moi, j'avais amené certaines dans les lieux, comme tu as fait pour l'église, comme tu as fait aussi. Donc moi, j'avais d'abord besoin de m'imprégner des lieux. Donc je suis allée filmer ces lieux et donc découvert ce cheval. Donc on était son personne interviewée. Et donc je voulais que le cheval devienne mon copain. Donc je suis allée acheter quelques carottes. Et je me suis dit que... Parce que je l'ai trouvé... Les images comme ça où il s'en va, où il est complètement brioso. Le mot est très beau en espagnol, mais je l'ai en français. Enfin, qui est complètement sauvage, quoi.
Oui.
Qui s'en va, qui saute.
Qu'il est tout à fait cheval.
Et oui. Bien sûr... Et bien sûr, quand on pose à la folie, quand on pose, bon, après, chacun met ce qu'il veut dans ses images, j'ai mis les miennes. Et donc, avec les carottes, le lendemain, on était déjà... J'avais pas les carottes au moment du médecin, mais le cheval avait les soupçons que je pouvais les avoir. Et du coup, il était déjà plus tranquille. Et moi, j'avais qu'une envie, c'était d'intégrer. Parce que si c'était juste une idée, comme si j'avais amené un cheval dans un lieu, c'était absurde. Le cheval était un cadeau du documentaire, un cadeau du lieu. Et je voulais que ce soit organique, quoi. Que ça soit pas comme une apparition. Donc c'était très important pour moi qu'il apparaisse effectivement avec le médecin, pas seulement comme une image fabriquée.
Pas comme seulement comme du subconscient, mais vraiment exact. Comme du réel. Quand on le voit avec le médecin, on se dit ah oui. En fait, il était vraiment. C'est pas Catalina qui l'a inventé. Il était vraiment là. Ouais. Mais il acquiert beaucoup plus d'importance à ce moment-là, je trouve. Pour moi, en tout cas, c'est à ce moment-là qu'il devient... Pour moi, on peut vraiment, comme tu disais, y mettre ce qu'on veut. Pour moi, il prend la présence des femmes. Enfin, je veux dire, il y a un côté...
On a cette sensation, en
moi,
tout
je
cas.
Trouve qu'on a, enfin, moi, j'avais aussi, toi aussi.
Moi hein. aussi, j'ai eu cette sensation.
Mais oui. Ça, c'est l'art du montage. C'est vrai que
oui, c'est l'art du montage.
C'est, on comprend le sens de la présence du cheval à ce moment-là.
Et du tournage aussi.
Donc, c'est vrai que c'est très fort.
Le médecin dit à ce moment-là, pile à ce moment-là, et ça c'est, je ne peux
ça,
pas l'inventer non plus,
ça,
c'est aussi la magie du tournage.
Oui.
Il dit à ce moment-là, on ne peut pas avoir de regrets architecturaux, et il y a la nature qui reprend ses droits.
Oui.
Et il sort du champ, et on est avec le cheval, pile quand il dit ça.
Oui.
Et donc, pour moi, la nature, bien sûr, c'est les arbres qui l'entourent, c'est le cheval, mais la nature, des émotions, la nature, ça devient pour moi très métaphorique. Ou très... Et donc, effectivement, ça, c'était un cadeau du cheval et du médecin.
Et par ailleurs,
la
séquence m'a marqué parce que, à ce moment-là, le médecin parle de l'ergatil. Hein, et en fait, les femmes...
C'est quoi l'ergatil ?
C'est un neuroleptique.
Le premier neuroleptique, 52. C'est la première fois...
Qui vient de France.
La première fois qu'on donne un médicament pour la folie, on va dire ça comme ça, pour les schizophrènes.
Etc. Et on les teste sur des femmes.
Et en fait, les filles du Bon Pasteur ont subi en fait cette prise de médicaments.
Et des électrochocs, elle dit. Il y en a l'une d'entre elles.
Alors, oui et non. C'est-à-dire que pour le Largatil, Evelyne, elle en parle dans les rushs, c'est pas présent dans le film, mais elle raconte que quand elle arrive au Bon Pasteur du Mans, il y a une jeune fille qui avait pris des doses de Largatil tellement énorme qu'elle a dormi pendant une semaine. Donc quand j'ai entendu le Largatil dans ton film, je me suis dit, mais c'est incroyable cet écho. Et c'est vrai qu'on a testé les premiers neuroleptiques sur les femmes, et notamment des femmes qui étaient dans des lieux d'enfermement, que ce soit à l'asile ou dans des maisons de correction. En revanche, pour la question des électrochocs, c'est Michel qui en parle, et les électrochocs se pratiquaient dans les hôpitaux psychiatriques, c'est-à-dire que quand les filles en maison de correction n'étaient pas assez dociles, alors, l'établissement envoyait les filles en maison de, en hôpital psychiatrique, et Michel savait que si elle partait là-bas,
Elle deviendrait folle.
Ouais. Qu'elle ne pourrait pas en sortir, ouais. en fait.
Alors, pour en revenir juste à la construction du film, on va parler des deux. Celle qui préfère commencer, hein, mais vous avez, commençons par le film de Catalina dont on vient de parler avec le cheval. En fait, toi, tu construis ton film avec vraiment beaucoup d'entrées. Tu as ton entrée personnelle, l'entrée effectivement historique de la lobotomie et comment elle a été utilisée dans différents pays et puis évidemment notamment en Colombie. T'as l'entrée de l'histoire familiale qui est un peu ton histoire personnelle mais qui est un petit peu différente aussi. Est-ce que tu peux nous dire comment t'as réussi à construire ce feuilleton à l'écriture, enfin ce millefeuille je voulais dire, à l'écriture et au montage?
En disant que ça ne soit pas un millefeuille. Enfin,
voilà, c'est-à-dire que ça se tienne.
Oui, c'est-à-dire que ce qui était très important pour moi, disons que le squelette du film, le squelette, était quand même... quand j'ai compris que mon oncle, psychiatre, que j'admirais tant, et ancien antipsychiatre, qui avait ouvert les... Bon, bref, j'ai grandi avec sa lumière, et que lui... avait peut-être permis la lobotomie de sa propre mère. Et je me suis questionnée pourquoi, enfin, que je suis allée démêler les fils de la lobotomie, comprendre, parce que c'était ma première question, comment la lobotomie est arrivée en Colombie, qui l'a emportée, comment, pourquoi, parce que c'était une technique qui se faisait en Europe, mais comment diable, elle avait atterri de la même manière que le largactif, enfin, il n'y a rien qui a été inventé en Colombie. Du point de vue psychiatrique à ce moment-là. Et donc, du coup, comment ça avait été l'importation de tout ça, c'est là où j'ai compris que mon oncle incarnait l'histoire de la psychiatrie, en fait. Mm-hmm. Je n'aurais pas raconté l'histoire de la psychiatrie si elle n'était pas complètement incarnée. Enfin, c'est-à-dire, donc on va dire, quand j'ai compris qu'il ne s'agissait pas, parce que pour moi, c'était important aussi, de ne pas complètement juger mon oncle, que j'aime beaucoup encore aujourd'hui. Mm-hmm. C'est-à-dire, c'est complexe. Pour moi, c'était un choc de découvrir cela. En même temps, je voulais contextualiser, je voulais comprendre, parce que bon, les psychiatres, ils ont fait des horreurs, mais ils n'étaient pas seuls pour les faire. C'est-à-dire que nous, on a beaucoup de mal à supporter les gens qui ne sont pas comme nous. Mm-hmm. On les exclut. On ne va pas dans la rue leur proposer un café quand ils sont par terre. Enfin, je veux dire, on y contribue, toute la société. Donc, il n'y a pas que... Les psychiatres sont ceux qui essayent, certains, d'accueillir la folie. Et ceux qui ne sont pas comme nous. Après, ils s'y prennent souvent mal. Mais on peut leur remercier quand même d'une partie de leur fonction. Mm-hmm.
Après, ce qui est intéressant, c'est que, en tout cas, dans cette période des années 50, 60, 70, c'est le pouvoir, c'est un pouvoir d'être médecin. Et ce pouvoir, il est incarné, il est porté par des hommes.
Tout à fait.
Et ça, c'est très fort, en fait, et c'est très subtil, parce que dans ton film, dans l'enquête que tu fais au sein des membres de ta famille, on sent aussi, des résidus de cette vision très masculiniste, patriarcale, enfin voilà, le regard des hommes sur les femmes et la liberté des femmes.
Tout à fait, tout à fait. Mais même si dans ton film, c'est des femmes qui s'en chargent, parce que c'est les bonnes sœurs qui s'en chargent, là, c'est pas des hommes qui les gèrent. C'est vrai que c'est une vision entière de la société, tout entière, qui est évidemment imposée beaucoup par les hommes, et une vision de la science de l'époque. Mais ce que je veux dire par là, c'est que mon oncle n'était pas seul. C'était une vision globale de la neurologie, comme aujourd'hui aussi, hein, la neuroscience. On essaye de localiser exactement. Enfin bon, bref, on ne va pas rentrer dans le.
C'est ce qu'on appelle un système.
Voilà.
C'est-à-dire que et dans Mauvaise Fille, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en effet, c'est les religieuses qui en fait, mais c'est l'État qui placent les filles dans des congrégations religieuses, alors que à partir de l'ordonnance de 45, les mauvais garçons entre guillemets vont partir majoritairement dans des internats laïcs. Donc et après on sait aussi que les femmes peuvent être tout à fait les gardiennes du patriarcat.
Tout à fait, exactement, tout à fait. C'est tout un système qui est une pensée de l'être humain, une pensée de la place de la femme, une pensée d'à quoi sert la femme, etc., etc. Mais donc du coup, disons que pour revenir un peu à la construction, c'est vrai que quand j'ai compris que mon oncle par son histoire, par l'âge qu'il avait quand il a commencé à étudier la psychiatrie, parce qu'il est allé à l'asile des folles, il a travaillé dans ce qu'on appelait l'asile des folles à Bogota, qu'il a fait son internat dans ces lieux, qu'il a donc contribué directement, mais quand même aidé ceux qui étaient en train d'imaginer la lobotomie chez les femmes, de choisir les femmes, c'était comme les autres internes de l'hôpital, de choisir qui était apte pour la lobotomie. Quand j'ai compris que lui, son parcours de psychiatre était l'histoire de la psychiatrie en elle-même, puisqu'il avait aussi travaillé dans cet hôpital désaffecté, puisqu'il avait aussi... Alors j'ai toutes les personnes de ce film, mon obsession, c'était pas d'aller voir n'importe quel neurologue ou n'importe quel neurochirurgien ou n'importe quel psychiatre. Il fallait tous qu'ils aient un rapport, soit avec mon oncle, qu'il l'ait connu, travaillé avec lui, ou que je les soupçonne d'avoir lobotomisé ma grand-mère, et d'être le fils d'eux, puisque ceux qui ont lobotomisé, ils sont morts. Ma grand-mère était née en 1904, donc oui. Voilà, c'était très difficile de trouver quelqu'un de vivant de cette génération. Mais ils sont tous en rapport avec ma famille, mon oncle ou ma grand-mère. Donc pour moi, c'était déjà une manière de tisser les liens,
que ces couches s'imbriquent
entre elles. C'est-à-dire qu'elles étaient à la fois, des fois, racontaient l'histoire de la psychiatrie, mais parce que mon oncle en faisait partie, l'incarnait. Pour moi, c'était le choc, si je peux dire, c'était le choc entre une personne qui ne va pas bien. À ce moment-là, je ne savais pas très bien le parcours de ma grand-mère. Et le médecin qui va faire cet acte définitif sur quelqu'un. Et chacun a un cheminement. Le médecin, il est né à tel moment, il a étudié à telle université, il a grandi en pensant et en lisant la psychiatrie d'une époque, il a cru à certains systèmes sociaux et patriarcales, etc. L'homosexualité était une maladie mentale. Qu'est-ce qu'on met dans la maladie mentale? C'est toute une histoire. Donc, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, cette histoire de savoir, du savoir, se confronte à ton histoire personnelle. Et donc, à partir de ce choc, pour moi, c'était ces histoires-là qui devaient se croiser. Et la lobotomie était, disons, l'acmé, si je peux dire de manière narrative, l'acmé de cette affaire.
Tu as eu la chance de pouvoir interviewer le fils de ta grand-mère avant qu'il soit mort,
oui.
Eduardo.
Non, Eduardo, c'est mon cousin. Eduardo, c'est mon cousin qui est le fils de mon oncle psychiatre. D'accord. Qui est à la maison. C'est lui dont tu parles, c'est Ernesto.
Ernesto Eduardo, oui, Ernesto.
Oui.
Tu as pu le voir juste avant.
Oui, je l'ai vu très peu, repérage, en fait, et il est mort pendant le Covid, pas du Covid, mais il est mort pendant le Covid. Donc, heureusement, j'avais garder un peu du repérage, on va dire, parce que c'était pas...
L'information qu'il t'a donnée sur ta grand-mère, tu la connaissais pas du tout?
Le film ne retrace pas exactement l'évolution de ce que je sais.
Bien sûr.
Puisque, comme dans tout le film, on sait un peu plus, quoi. On commence à faire le film. Alors, toute la chose et comment j'ai fait narration de ce que je sais déjà, qu'est-ce que j'ai dit, à quel moment je le mets dans le film, est-ce que je retrace ma propre ignorance et j'avance avec elle, quand je retrace ma propre ignorance, je ne les suis plus déjà dans le film.
parce que je sais
des choses. Mais c'est... Voilà, donc ça, une fois que j'ai fait ça d'un côté, et je vais finir très vite, et de l'autre côté, que j'ai compris qu'est-ce qui m'intéressait de manière un peu cinématographique qui m'est branchée, c'est effectivement qu'il n'y ait pas d'image et... qu'il n'y ait pas d'image, qu'il n'y ait pas de récit, ce qui me permettait, moi, de le faire. Et comme je ne pouvais pas ni filmer ma grand-mère, ni des photos de ma grand-mère, ni des gens vraiment qui l'ont... Enfin, sauf deux ou trois personnes qui l'ont connue, je voulais filmer les lieux qu'elle avait rencontrés. Et les lieux, je sentais... C'est l'imprégnation de... Enfin, je voulais qu'il y ait l'imprégnation d'une époque. Le Bogota. Quel Bogota elle a connu? Quelle rue de Bogota? Quel moment de la violence, etc. Et c'est comme ça que... disons que la partie historique de, ce n'est pas pour raconter l'histoire de la Colombie, c'est pour raconter le moment où ma grand-mère déambulait dans ces rues de Bogota, alors que Bogota était, par exemple, sous les flammes.
Tu arrives même à mettre une séquence où il y a un parc avec les frailejones, qui est un arbre unique, et pour parler de la botanique, quelque part, d'une manière rapide, comme ça, et de la fabrication de savon, mais aussi, tout d'un coup, tu mets aussi la fabrication de médicaments.
C'est mon grand-père.
C'est ton grand-père.
On va faire une pause musicale. Donc, on va écouter La Tendresse par Marie Laforêt. Une chanson qui nous semblait importante à écouter avec toutes les choses très dures qu'on est en train de, dont on est en train de discuter aujourd'hui, avec toute cette violence. Voilà, pour repartir un petit peu dans des choses un peu plus faciles. Et après cette pause musicale, on écoutera Émérance qui nous parlera de la construction de son film et de la manière dont elle l'a pensé et monté.
Sur la place chauffée au soleil, une fille s'est mise à danser. Elle tourne toujours pareil aux danseuses d'antiquité. Mais sur la ville, il fait trop chaud. Hommes et femmes sont assoupis et regardent par le carreau cette fille qui danse à midi. Ainsi seul place vibrante d'air chaud, où pas même ne paraît un chien, ondulante comme un roseau, la fille bondit, s'en va, s'en vient, ni guitare, ni tambourin, pour accompagner sa danse, elle frappe dans ses mains, pour se donner la cadence, ainsi certains bonté. Sur la ville, il fait trop chaud pour ne point entendre son chant. Des hommes ferment leurs carreaux comme une porte entre mort et vivant. Ainsi certains jours paraît une flamme en nos cœurs, mais nous ne voulons jamais laisser luire sa lueur. Nous bouchons
Alors, nous venons d'entendre, en fait, la chanson « Sur la place », écrite par Jacques Brel et chantée là par Dom La Nena. On s'est trompé dans l'annonce qu'on vous a faite avant cette musique. On l'avait gardée pour la fin, pour vous souhaiter un bon été. Tant pis. Nous reprenons notre émission. On a déjà traité le sujet avec Émérence Duba pour son film « Mauvaise fille » et Catalina Villar pour son film « Anna Rosa ». Et nous poursuivons la conversation sur la construction, les différentes modes de construction de vos films.
Émérence, est-ce que tu veux parler de la construction tout de suite et on écoute un extrait quand tu as dit quelques mots déjà? Ou est-ce qu'on passe un extrait tout de suite? Qu'est-ce que tu préfères?
Je vais parler un tout petit peu de la construction du film jusqu'à la question des archives peut-être. Alors avec Nina Kada, la monteuse du film, on a dressé des lignes en fait dramaturgiques pour chacune des femmes. Moi, j'ai toujours eu en tête un film choral, donc l'enjeu était vraiment de tresser en fait d'un point de vue dramaturgique en fait le parcours de chacune des femmes avec un climax pour chacune d'entre elles. C'est un film bien sûr qui pose beaucoup de questions historiques mais qui n'y répond pas forcément. Moi, ce qui m'importait, c'était vraiment d'être dans une approche mémorielle, c'est-à-dire qu'est-ce que ce système disciplinaire a fait en fait sur les corps et les esprits, et ce qui m'importait, c'était vraiment que les femmes qui ont entre 60 ans et 95 ans, comment elles voient leur histoire. Et ce qui m'a frappée, c'est que bien que ce soit des faits du passé, lorsqu'elles racontent leur enfance et leur adolescence, c'est au présent qu'elles le racontent. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est cristallisé, qui est ancré. Et donc, il y a ces arcs dramaturgiques et il y a le lieu. Catalina, tu en parlais tout à l'heure. Et c'est vrai que pendant très longtemps, j'ai cherché un lieu pour incarner le récit des femmes et aussi que le spectateur puisse éprouver physiquement ce qu'est l'enfermement des corps. Et c'est un lieu que j'ai cherché pendant très longtemps. Le Bon Pasteur d'Angers, la maison mère, m'a toujours refusé l'accès jusqu'au jour où j'entends parler du Bon Pasteur de Bourges. C'est le lieu que l'on voit dans le film, qui a été fermé dans les années 90 et qui restait à l'abandon pendant une trentaine d'années. Et quand je suis rentrée à l'intérieur, en effet, c'était un lieu hautement cinématographique. Et après, j'ai cherché à rencontrer une femme qui avait été placée précisément dans ce lieu. Et donc, j'ai fait une autre recherche et c'est là où j'ai rencontré Edith, cette femme qui aujourd'hui a 95 ans, qui n'était pas en mesure de se déplacer. Et donc je lui ai demandé en fait qu'elle me retrace en fait le chemin qu'elle empruntait enfant depuis l'entrée jusqu'à son lit. Et en traversant mentalement les espaces, elle m'a raconté sa vie à l'intérieur du Bon Pasteur de Bourges. Et je lui ai promis en partant que je lui ramènerais des images du Bon Pasteur tournées en fait et guidées par sa voix. Dans le film, en fait, il y a une scène qui est assez importante, qui est le mitard, qui est la seule scène musicale du film. Mm-hmm. Moi, je me méfie beaucoup de la musique dans les films et je voulais surtout pas aller vers... je voulais pas que la musique soit appuyée sur des questions de pathos, au contraire. Donc, Et en fait, le mitard est central puisque c'est le pivot du film. À partir de ce moment-là, les femmes, elles sont souvent filmées dans des intérieurs et on va les découvrir à l'extérieur. Notamment Evelyne qui va, c'est la séquence qui suit, qui va consulter son dossier de placement.
Voilà, du coup, c'est parfait. On va écouter cet extrait. Donc d'Evelyne qui arrive aux archives départementales et qui ouvre avec une personne du lieu.
Une assistante sociale.
Une assistante sociale qui ouvre ce dossier et qui le consulte. On écoute cet extrait.
fait épaisse les enveloppes. J'avais omis de vous envoyer, et pour cause, il fallait savoir où était ma fille. Quand même.
A priori, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de transparence. Et si on en croit à cette lettre, vos parents, je pense qu'il y a eu un moment où ils se sont demandé où vous étiez.
Ma fille Evelyne à Angers ou au Mans ? Je commence à me demander qu'elle rentre au plus vite. Quand croyez-vous, puis-je le savoir ? Rendez-moi, s'il vous plaît. Une réponse. Je vais lui envoyer un manteau. Ça, je ne l'ai jamais eu. Il était sur le dos d'une fille qui s'en allait, qui sortait. Je ne l'ai jamais eu. Puis il était beau. Hein.
Mais vous voyez duquel il s'agit ?
Un manteau gris avec une cravate noire, en fait, comme ça, avec un nœud, quoi. Il y avait une jupe aussi, et puis un pull vert dedans. Un manteau pour cet hiver et les vêtements pour son équipement de guidisme, je sais pas quoi. Bien à vous tous, avec mes respects.
Vous vous êtes construite, vous, avec l'idée que vos parents ne s'étaient pas intéressés à vous.
Ils n'en avaient rien à faire. Ça, je ne l'ai pas eu, ça, parce qu'elle n'a pas les...
Non, mais il y en a plein d'autres, je pense que vous regarderez après. On ne vous les a pas transmises.
Ah, ils ont demandé à plusieurs reprises que j'aille chez eux.
Oui.
Et ils n'ont jamais voulu.
Alors, donc, dans cet extrait qui est très émouvant et qui, effectivement, est au centre du film, on voit donc Evelyne ouvrir son dossier. Moi, j'avais une question, en fait, par rapport à cette construction. En fait, comment vous avez réfléchi la manière de faire de ces récits individuels un récit qui, finalement, devient collectif ? C'est vraiment, on voit une époque, on voit un système répressif. Enfin, voilà, comment vous avez pensé cette chose, cette construction-là ? C'est quelque chose qui est pour dépasser le récit individuel. Est-ce que c'était juste de les faire se croiser, ou comment est-ce que vous avez réfléchi ça ?
Par exemple, pour préciser une question, on ne voit jamais leur nom, mais par contre, elles sont chacune bien identifiées. Mais évidemment, en tant que spectatrice qui voit le film pour une première fois, on mélange un peu toutes les histoires. On ne se rappelle pas tout à fait qui a vécu ça. Donc, le choix de ne pas mettre leur nom pendant le film, à la fin, on les a à la fin, mais...
En fait, on a le prénom de chacune des femmes, parce que Edith parle du fait qu'on a changé son prénom quand elle est arrivée à l'intérieur du Bon Pasteur en tant que préservée, donc en tant qu'enfant. Et j'ai tenu à ce que le prénom soit évoqué pour chacune des femmes, soit à la lecture d'un dossier, etc. Donc, elles ont toutes un prénom. Elles ont toutes un prénom. Après, c'est vrai que, pour répondre à ce que disait Caroline, c'est vrai que c'est... Moi, j'ai cherché à travailler sur l'histoire de chacune, et c'est, je pense, le fait de croiser ces parcours, tout d'un coup, ces histoires individuelles, ensemble, font sens et racontent l'histoire du placement des filles en maison de correction.
Mm-hmm. C'est vrai que leurs histoires se répondent, en fait. Elles ont vécu à peu près les mêmes choses, enfin, je veux dire...
Elles se répondent, elles se complètent. Encore une fois, ce sont des femmes qui, au moment du tournage, ne se connaissaient pas. Elles n'ont pas le même âge, elles n'étaient pas au même endroit. Et pourtant, elles racontent la même chose. Et d'ailleurs, avant la première projection publique du film, comme nous avons fabriqué ce film dans une très grande intimité, j'ai tenu à leur montrer le film à chacune d'entre elles pour avoir... encore quelque chose de très intime entre elle et moi, et aussi pour avoir leur accord moral. Et elles m'ont toutes dit mot pour mot la même chose. À savoir, c'est incroyable, on n'a pas le même âge, on n'était pas au même endroit, et on raconte la même chose. Mm-hmm. C'est donc bien un système. Mm-hmm. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir choisi l'archive cette archive, enfin cet extrait-là où Evelyne consulte son dossier de placement. En fait, cette séquence, elle est assez miraculeuse parce que, en fait, les archives sont détenues par la congrégation du Bon Pasteur à Angers, qui m'a toujours refusé l'accès. Et il se trouve que dans la troisième partie de son dossier, en fait, ce dossier concernait le Bon Pasteur du Mans. Et le Bon Pasteur du Mans, en fait, je vais aller très rapidement, mais d'un point de vue administratif, est devenu le refuge. Et le refuge, pendant une dizaine d'années, a déposé des dossiers dans les années 60 aux archives départementales de la Sarthe. Et c'est pourquoi j'ai pu tourner cette séquence. Et cette séquence, elle m'émeut toujours autant quand je l'entends, parce qu'elle détient un secret. À un moment, Evelyne ne dit pas, en fait. Elle lit, mais on ne sait pas, en fait, ce qu'il y a. Elle le garde pour elle.
Elle ne lit pas tout.
Elle ne lit pas tout. Mm-hmm. Et ça, je trouve ça très, très beau, en fait. Voilà, il y a un secret dans cette séquence. Et pour revenir sur la question des archives et rebondir sur ce que tu disais, Catalina, c'est que quand tu parlais justement des membres de ta famille, moi, en tout cas, pour les archives, c'était très important de travailler. Il existait quelques fonds, notamment, je pense au fonds photographique Henri Manuel, qui est un fonds splendide et que j'ai refusé d'utiliser. En fait, ce qui m'importait, c'était de travailler avec des archives qui concernaient l'histoire des femmes présentes dans le film. Ça, c'était très important. Et du coup, j'ai fait vraiment des recherches, par exemple, pour le fond photographique Les Plaques de Verre, que Michel consulte. Là, quand on a entendu Evelyne qui consulte son dossier de placement, c'est Evelyne qui m'a demandé de l'accompagner. Mm-hmm. Mais dans l'autre sens, moi, j'ai proposé... En fait, Michel avait une enveloppe avec 2-3 photos de son enfance et une coupure de presse, de la presse locale de la Haute-Loire. Et je me suis dit, s'il y a une photo, il y a peut-être une série quelque part. Donc j'ai fait toute une recherche, jusqu'au jour où je découvre un fonds photographique familial, un studio photo qui avait photographié la Haute-Loire pendant plus d'un siècle et qui avait été racheté et qui était de nouveau exploité. Donc je traverse toute la France et c'est ce qu'on voit dans le film, il y avait plein de petites boîtes partout, un registre plutôt très bien tenu d'époque et en fait, en effet, il n'y avait pas une plaque de verre, mais une trentaine de plaques de verre. Mmh. Et à ce moment-là, j'ai proposé à Michel, voilà, je lui dis, écoute, est-ce que ça t'intéresserait de découvrir cette série à l'occasion d'un tournage? Et ça donne la séquence que vous voyez dans le film. Mmh. Mais pour moi, voilà, c'était très important que les archives soient vraiment en connexion avec le parcours des femmes, toujours aussi dans le souci d'une approche mémorielle. Voilà, et sur la question, du coup, de la question des traces que l'on a avec dans la mise en scène des archives et que l'on a aussi avec le lieu qui est donc voilà qui est un lieu fantomatique et qui voilà qui travaille aussi sur la question des traces.
Et dans vos deux films sur la question, il y a des questions avec les archives qui sont très intéressantes et qui ont dû poser beaucoup d'interrogations pour chacune d'entre vous et vos monteuses. En l'occurrence, Catalina, jusqu'où aller quand on monte des archives qui sont quand même parfois très violentes de personnes en train de se faire lobotomiser. Donc, est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Parce qu'on arrive à la fin de l'émission, mais on veut quand même t'entendre là-dessus.
Oui, je vais essayer de... Effectivement, c'était toute la question. En même temps, on a essayé avec la monteuse de faire un parcours pour les spectateurs. C'est-à-dire, ce qu'on voit au début n'est pas très violent. Et en plus, on coupe au moment où ça peut devenir violent. Puis après, on va un peu plus loin. Puis après, on va un peu plus loin. Et on garde la vraie violence de ces archives à la fin, où on a estimé qu'il fallait quand même le montrer. Sachant que ces archives ont été filmées, non pas pour choquer les autres, ont été filmées pour apprendre l'opération. C'est des archives de propagande. Mm-hmm. C'est aussi ça qui m'intéressait de raconter. Comment le médecin qui les a filmés, Freeman, qui a filmé la plupart de ces opérations, a utilisé, parce qu'il y a l'opération elle-même, mais il y a aussi la manière dont il met en scène, de manière les avant, pendant et après l'opération. Donc les avant, et comment il met en scène, c'est un grand metteur en scène. Mais le temps est fini. Voilà. Donc c'est un processus
Mm-hmm. Un processus de friction et un processus de progression, en fait.
De progression. Mm-hmm. J'étais un peu poussée par la monteuse, qui elle-même était malade pendant le film. Elle est morte très vite après. Mm. Et donc, elle était souffrante dans son corps. Et elle disait, des fois, il faut montrer aux gens. Mm-hmm. Ça ne suffit pas de leur raconter.
Mm-hmm. D'accord. Voilà.
Hommage à Adriana.
Toi aussi, tu es tombée malade.
C'est une autre histoire aussi.
Voilà. Là, je crois qu'on n'aura pas vraiment le temps d'aborder. On avait quand même un tout petit peu envie de parler de cette séquence où tu retrouves cette image de propagande à la télévision française, dont tu gardes le commentaire pendant quelques secondes, et puis ensuite tu le coupes. Tu coupes la parole à cette horreur de mensonge pour nous faire voir quelles sont les images qui nous parlent beaucoup plus. Dans le silence.
Et là, Anne, tu es en train de parler à Émérance.
Oui, voilà, Émérance pour Mauvaise Fille. Oui.
C'est dans le film Mauvaise Fille, effectivement, que tu utilises quelques images de propagande avec un commentaire que tu coupes.
Alors, je vais faire court parce que le temps nous est compté, mais en effet, alors, c'est pas un film de la télévision française, pas du tout. C'est un film que j'ai trouvé, un film amateur, tourné en 16 mm en 1952, d'un médecin qui s'occupait des filles placées au refuge de Nantes, aux Dames Blanches. Et c'est les seules images, à ma connaissance, tournées à l'intérieur d'une maison de correction. Et en effet, c'est la seule voix masculine du film, une voix stigmatisante, qui indique bien qu'il s'agit d'un film de propagande. Et après les premiers mots, en effet, comme tu l'as très bien dit, Anne, tout d'un coup, j'ai souhaité couper cette voix pour que l'on regarde ces images. Et c'est toute l'ambivalence des films de propagande, c'est-à-dire que c'est des images qui sont tournées à dessein, et en même temps c'est la seule représentation que l'on ait des filles à l'intérieur. Donc elles sont mises en scène, elles jouent le jeu, mais il y en a une qui nous regarde. Mm-hmm. Et c'est ce regard-là qu'il faut retenir.
Mm-hmm. Et on comprend très bien qu'elles sont mises en scène et que leur rire est faussé, et qu'en fait elles sont quand même contraintes à travailler ensemble dans cette soi-disant bonne humeur.
Voilà, c'était des filles qui étaient placées pour être rééduquées. Voilà. Et en effet, il fallait qu'elles assurent un quota de couture. Mmh. Elles travaillaient pour ces maisons.
En plus. Mmh. Bon, nous avons débordé la durée de notre émission, mais est-ce que Michel Polizzi, tu nous écoutes? Nous savons que tu ne viendras pas aujourd'hui, malheureusement pour toi, à cause de problèmes de transport. Et donc, nous allons prendre la liberté d'empiéter un petit peu sur ton émission Le Mélange pour déborder un tout petit peu, pour finir quand même cette émission, cette dernière émission pour nous avant l'été, avant notre pause estivale, puisqu'en août, nous n'aurons pas d'émission. Je vais quand même vous dire un petit agenda culturel, mais avant de finir par ça, on vous pose quand même la question à toutes les deux, où est-ce qu'on peut voir vos films? Parce qu'évidemment, les auditeurs et auditrices, je pense, vont avoir très envie de les voir.
Alors, Mauvaise Fille est sortie au cinéma le 23 novembre 2022. Le film est distribué par Arizona Distribution. Donc, le film a eu tout un parcours dans les salles de cinéma. Et maintenant, depuis le mois d'avril, il est accessible sur les plateformes en VOD et aussi en DVD.
Merci. Et du coup, Catalina?
Non, c'est pas si facile pour moi encore. Je sais qu'il va passer au Panorama colombien en septembre à Paris, en octobre à Paris. Et on cherche un distributeur qui, pour l'instant, on a eu des gens très frileux puisque ça se passe en Colombie, parce que ça raconte la lobotomie, c'est trop pointu. Voilà, mm-hmm. Des réponses comme ça. Donc, on n'a pas trouvé un distributeur, mais on cherche.
Et en Colombie?
En Colombie, il sera distribué. Mm-hmm. Et il y a des festivals en vue, et notamment un festival en Colombie. Enfin, j'irai en novembre, à la fois pour le festival et le lancement de la distribution en Colombie. Oui, ça
d'accord.
Va être distribué.
Au moins, heureusement.
Oui. Mm.
Parce qu'on précise quand même que vos deux films sont des films de cinéma qu'on voit en salle. Et c'est vraiment les meilleures conditions pour les regarder.
Et qui ne concerne, ton film ne concerne pas que la Colombie, en effet.
Bien sûr,
il touche justement...
Il faut convaincre tous les distributeurs qui écoutent cette émission.
Comprennent.
Exactement.
Voilà, bon, eh bien, sur ce, nous allons clore notre émission avec l'agenda de l'été, puisque, comme je vous le disais, nous n'aurons pas d'émission en août, donc je vais vous parler du mois de juillet et du mois d'août. Pour commencer, demain, lundi 3 juillet, à la Maroquinerie, à partir de 19h, vous êtes vraiment invités au concert de soutien pour l'anniversaire de Julian Assange, journaliste et fondateur de Wikileaks. Assange est privé de liberté depuis 11 ans sans aucun jugement. Les voies judiciaires pour s'opposer à son extradition vers les États-Unis se ferment une à une. Les États-Unis où l'attendent les dizaines d'années d'emprisonnement qui lui sont promises. Le crime d'Assange, informé. Donc demain, lundi 3 juillet, à la Maroquinerie à 19h. Ensuite, un film d'un réalisateur adocien de l'association Adoc que nous avons déjà invité à notre émission radio. Son film, c'est « Les balles du 14 juillet 1953 », qui raconte cette manifestation, cette répression qui a eu lieu le 14 juillet 1953 au moment de la dislocation d'une manifestation en l'honneur de la Révolution française. La police parisienne charge un cortège de manifestants algériens. 7 personnes, 6 Algériens et un Français, sont tués et une centaine de manifestants blessés, dont plus de 40 par balle. Un vrai carnage. Le film est projeté dans le cadre du 70e anniversaire de cette répression, toujours quasiment inconnue. 2 projections à venir, vendredi 7 juillet à 19h à la librairie Résistance au 4 Villa Compoint, Paris 17e, et lundi 10 juillet à 17h30 à l'auditorium de la mairie de Paris. Voilà, je vous ai tout dit sur les lieux et les dates. Et voilà, pour l'été, comme chaque année, de nombreux festivals vous accueillent tout au long de l'été, dans toute la France, pour citer ceux où on peut voir des films documentaires. Vous avez le FID Marseille, Festival International de Cinéma du 4 au 9 juillet à Marseille, le Festival Résistance, Festival de Films et de Débats à Foix du 7 au 15 juillet, les états généraux du film documentaire du 20 au 26 août à Lussas en Ardèche. Et manque de peau, ça fait plus de 30 ans que... En même temps et la même semaine de fin août, on a aussi le festival de cinéma de Douarnenez du 19 au 26 août, qui a pour thème cette année « Premier peuple d'Amérique du Nord ». Voilà, donc vous pouvez retrouver... toutes nos émissions en réécoute sur le site d'Adoc, adedoc.net, sur lequel vous pouvez aussi trouver toutes les publications d'Adoc dans notre librairie en ligne, si vous avez des envies de lecture au sujet du cinéma documentaire. Paula, tu voulais dire quelque chose ?
Oui, une pensée pour la famille et les proches de Naël.
Absolument.
Oui.
Oui, bien sûr. Et nous vous donnons rendez-vous le premier dimanche de septembre. D'ici là, passez toutes et tous un bel été.